Histoire, actualité comme tous les vendredis dans la fabrique de l'histoire, actualité de la recherche, actualité des publications d'histoire. Pour commencer, nous aurons le plaisir de recevoir Vinciane Pirène-Delforge, nouvelle titulaire de la chaire Religion, Histoire et Société dans la Grèce antique au Collège de France. Et elle a prononcé sa leçon inaugurale le 7 décembre dernier et commencé ses cours la semaine dernière. Puis en deuxième partie de l'émission, nous aurons un égal plaisir à recevoir l'historienne Annette Becker qui vient de publier chez Fayard « Messager du désastre », Raphaël Lemkin, Jan Karski et les génocides. Et puis enfin, en fin de cette émission, comme tous les vendredis, notre séquence « C'était à la une » en partenariat avec le site Retro News de la Bibliothèque Nationale de France, mettra en voie un article de l'Humanité de 1931 au moment où se déroulait à Paris l'exposition coloniale. Bonjour Vinciane Pirène-Delforge.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Donc vous venez de tenir votre leçon inaugurale, c'était en décembre dernier, le 7 décembre très exactement au Collège de France, et vous vous attaquez à un sujet dans lequel vous expliquez d'ailleurs dans cette leçon inaugurale, un sujet qui est déjà connu depuis longtemps, a priori supposé connu, qu'il va vous falloir d'une certaine façon re-révéler ou redécouvrir avec les auditeurs qui viennent vous voir donc à ce Collège de France, la question de la religion antique. Hier, nous recevions un spécialiste de la Chine des Song qui nous expliquait à propos du ciel chinois qu'il fallait trouver la première occurrence du signe ciel dans l'archéologie chinoise sur des os qui servaient de divination dans la Chine ancienne 1500 ans avant notre ère. Et vous-même, vous travaillez sur justement toutes les traces de la religiosité, pourrait-on dire, on va discuter de ces termes avec vous, Vinciane Pirène-Delforge, dans la Grèce antique et en particulier sur ces tablettes qui, là aussi, ont quelque chose à voir avec la divination.
Absolument. Et comme comme je l'ai expliqué lors de ma leçon inaugurale, on a mis au jour sur le site de Dodone en Grèce du Nord des milliers de lamelles en plomb sur lesquelles étaient inscrites des questions que les consultants posaient aux dieux qui étaient honorés dans le sanctuaire de ce lieu majestueux de la Grèce du Nord. Et donc, on a retrouvé ces lamelles de plomb enfoncées dans la terre, ce qui est un petit peu mystérieux. On ne comprend pas très bien pourquoi ces lamelles ont été retrouvées là, parce que c'était manifestement intentionnel. Et donc, c'est un ensemble de traces extrêmement intéressant pour l'historien de la religion grecque antique, dans la mesure où vous saisissez d'emblée les préoccupations les plus intimes des gens. C'est assez rare, finalement, dans le corpus des documentaires de la Grèce ancienne, que l'on puisse, à ce point, saisir des préoccupations des individus qui allaient interroger les dieux.
Alors, ces tablettes, pour certaines d'entre elles, sont assez illisibles parce qu'elles ont été remisées pendant longtemps, expliquez-vous, dans des réserves de musées sans être véritablement interrogées. Mais depuis quelques années ou quelques dizaines d'années maintenant, on s'y intéresse. Et donc, on a là, effectivement, une sorte de pulsation, pourrait-on dire, de la façon dont les Grecs, Grecs hommes et Grecs femmes, puisque Evandros vient avec sa femme, dont on n'a d'ailleurs pas le nom, en l'occurrence pour consulter l'oracle de Dodone, dont les Grecs imaginaient leur rapport aux dieux et quels étaient les dieux qu'ils venaient voir, et peut-être même en se demandant pourquoi tel dieu plutôt qu'un autre, Vinciane Pirène-Delforge.
Oui, en fait, quand les Grecs venaient consulter l'oracle de Dodone, ils interrogeaient Zeus et Dionée, c'est-à-dire la déesse avec laquelle il était en couple, si je puis dire, dans ce sanctuaire. Mais ce qui est absolument fascinant pour celui qui travaille sur la religion grecque, c'est de voir que les consultants venaient interroger le dieu pour savoir à quel dieu il fallait s'adresser pour avoir la certitude d'obtenir un bienfait. Et donc, c'est un des enjeux majeurs de la compréhension du polythéisme grec, pour nous, modernes, qui sommes les héritiers d'une culture monothéiste, fondamentalement, qu'on soit croyant ou pas, d'ailleurs, ça n'a pas d'importance, nous baignons dans une culture monothéiste, et en fait, notre interrogation, c'est comment ces gens faisaient-ils pour choisir le dieu auquel, ou la déesse à laquelle s'adressaient dans une pléthore d'offres.
D'autant qu'il y avait des dieux qui pouvaient être partagés presque par tout le monde dans cet espace géographique qu'était la Grèce, mais le petit millier de cités qui peuplaient justement cet espace géographique avaient aussi des dieux particuliers et des sortes d'adaptations du dieu général ou de la déesse générale à leur propre cas, et donc qu'il y avait une sorte d'offre pléthorique, pourrait-on dire.
Absolument. Il y a dans le système polythéiste des Grecs une sorte de production de pluralité. C'est-à-dire, vous avez à la fois chaque dieu qui, au niveau local, se trouve affecté de ce que nous appelons une épiclèse, donc une sorte de qualification culturelle spécifique, donc ce qui introduit de la pluralité au sein même.
De la variété.
Absolument. Et vous avez donc ce processus-là, qui est un processus de multiplication inhérent au système. Vous avez aussi les nombreux héros locaux. Ça, on ne doit jamais les oublier quand on parle de dieux grecs. En fait, il y a des dieux, certes, mais il y a aussi les héros. Bien sûr. Et donc là, à l'échelle locale, vous avez là aussi une inflation de figures qui peuvent être attestées dans la documentation. Et donc, l'offre était vraiment très, très vaste. Évidemment, nous ne sommes plus, comme je dis souvent, nous ne sommes plus des locuteurs natifs. Donc, nous avons un petit peu de mal à comprendre comment cela se passait. Et il est clair que le choix devait être, dans un certain nombre de cas, motivé par la tradition. C'est-à-dire qu'il y avait sans doute des évidences au sein des communautés locales. Quand on avait tel problème, on allait trouver tel interlocuteur. Même si nous avons perdu cette information-là. L'information de l'évidence, nous l'avons perdue, puisque dans une documentation, l'évidence est rarement explicitée. C'est ça le problème. Et donc, il devait y avoir des évidences, et puis il y avait des cas problématiques. Et de ce point de vue, l'oracle de Dodone est vraiment un très beau laboratoire pour nous, parce qu'on voit qu'à un moment donné, il y a une nécessité de se faire aider par le dieu dont la volonté est souveraine, Zeus, et lui dire, bon, aide-nous, dis-nous à qui on doit s'adresser pour être sûr de réussir notre entreprise.
Alors, vous ne pouvez pas savoir comme ça fait du bien dans cette société dans laquelle on vit aujourd'hui, où la question du monothéisme est partout présent, de ce retour du religieux et de la religion, que de vous entendre justement dans ces conférences et ces cours que vous faites sur le polythéisme, parce que d'un seul coup, effectivement, vous réintroduisez de la variété, vous réintroduisez non pas une lecture uniforme d'un texte qu'il ne faut pas changer et dont un seul iota ne peut être bougé, mais au contraire, vous montrez effectivement cette très grande variété, cette très grande richesse du rapport à la religion. Et c'est vrai qu'on a l'impression, avec vous et avec tous ceux qui travaillent avec vous, Vinciane Pirenne-Delforge, qu'il y a là un nouveau champ qui s'ouvre pour la recherche justement sur l'Antiquité et sur cette question de la religion. D'ailleurs, on dit religion au singulier ou religion au pluriel?
Ah, écoutez, c'est quelque chose dont je parle dans mes cours. Oui, vous avez bien écouté le premier cours. Et je vais d'ailleurs reposer la question dès la semaine prochaine en m'interrogeant avec les auditeurs sur la religion grecque. Mais je reviens peut-être sur le début de votre question. Bon, d'abord, nouveau champ, il faut être juste, c'est-à-dire je n'ai pas l'ambition d'ouvrir un nouveau champ, hein, soyons clairs.
Marcel Détienne,
voilà, Marcel Détienne, Paul Veyne, Jean-Pierre Vernant avaient largement, et puis d'autres encore avant eux, Louis Gernet, qui est quelqu'un qu'on a parfois un petit peu oublié, mais
Jean-Pierre Vernant, n'oubliez jamais.
Mais pour l'étude de la religion, parfois, il a écrit des pages magnifiques en 1932. Donc bon, voilà, il faut.
Des nouvelles lectures, et en particulier grâce à cette archéologie qui est nouvelle.
Absolument. Et donc, on a, je pense, dans la manière d'appréhender le polythéisme, mis davantage l'accent que ne le faisait, par exemple, quelqu'un comme Louis Gernet ou quelqu'un comme Jean-Pierre Vernant. De Tienne, de ce point de vue-là, était peut-être plus précis. On a mis l'accent beaucoup plus sur l'épigraphie, c'est-à-dire sur les inscriptions qui émanent des communautés et qui permettent, là encore, et de ce point de vue, les tablettes de Dodone font partie de l'épigraphie, sont étudiées par l'épigraphie, ce sont des sortes d'instantanés de la vie religieuse qui émanent directement des communautés, par l'archéologie, contrairement aux textes littéraires qui, eux, sont des productions beaucoup plus élaborées d'un point de vue littéraire, pour le dire rapidement, et puis qui nous ont été transmises par la tradition manuscrite, et qui ont fait l'objet d'un choix, d'une sélection. L'épigraphie, bon, alors évidemment, c'est un peu le fruit du hasard, puisque ça dépend de ce qu'on trouve, mmh. de ce qui est toujours disponible, mais ça nous met directement en phase avec des décisions qui ont été prises à l'échelle locale à un moment mmh. donné. Et donc ça, ça ouvre une perspective dans l'information qui est extrêmement riche et qui permet d'affiner grandement ce que les grands anciens avaient déjà commencé à explorer.
Et puis, cela permet aussi de réfléchir à ces questions avec vous, Vinciane Pirenne-Delforge, et vous posez cette question dans la leçon inaugurale que vous avez donnée au Collège de France le 7 décembre dernier, de se dire, voilà, on imagine toujours, effectivement, cet espace grec comme étant l'espace du logos, comme étant l'espace de la raison en train de se forger, de la naissance de nos disciplines, l'histoire, la philosophie, la géographie, je ne sais. Et en fait, vous dites, ça coince toujours, parce que cette naissance du logos, elle est concomitante de la pratique religieuse qui ne s'arrête pas au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et à Athènes, elle continue jusqu'au 3e siècle. Et d'ailleurs, Evandros et sa femme, c'est au 3e siècle avant Jésus-Christ qu'ils vont à Dodone pour demander à quel dieu ils doivent vouer leur prière. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant de voir qu'effectivement, eh bien, il y a ce foisonnement qui n'arrive pas à rentrer dans des cases d'une certaine façon, Vinciane Pirenne-Delforge.
Absolument, c'est ce que j'ai exprimé sous une forme un peu imagée dans ma leçon inaugurale en disant que la religion grecque était le caillou dans la chaussure de ceux qui considèrent effectivement que la Grèce est le lieu de la naissance absolue de la raison, et donc on aurait chassé l'obscurantisme de ce polythéisme foisonnant.
Oui, vous dites que les dieux n'ont pas été ostracisés de la pensée présocratique ou de chez Platon.
Bien sûr,
ils sont là.
Ils sont là.
Il faut faire avec.
Et même chez des auteurs comme les présocratiques ou Platon. Et ça, je pense que c'est vraiment, s'il y a quelque chose d'un peu neuf dans l'approche plus récente, c'est cette mise en évidence-là. C'est-à-dire, il faut reconsidérer, en fait, une forme de compatibilité entre cette réflexion intellectuelle, parce que c'est quand même une réflexion d'intellectuel, hein, il ne faut pas se voiler la face, une réflexion d'intellectuel qui pose de nouvelles questions au monde qui les entoure, mais qui ne fait pas nécessairement l'économie totale de la tradition ancienne et surtout de la tradition culturelle des cités. Je pense que c'est sans doute cela que nous avons beaucoup de mal à comprendre en tant que modernes. Et c'est ce que quelqu'un comme John Scheid au Collège pour la religion romaine avait aussi bien expliqué. C'est-à-dire que nous sommes influencés par cette vision monothéiste d'une révélation, vous le disiez tout à l'heure, d'un message de vérité absolue et donc d'une adhésion de croyance qui prévaut, évidemment, dans tous les actes rituels qui sont accomplis. Dans un polythéisme, le rapport entre les représentations et les actes n'est pas nécessairement de même nature. Mmh. Et c'est cela qu'il faut repenser et réétudier.
Oui, et vous expliquez bien, effectivement, que cette question, c'est la question de faire concorder le multiple avec une unicité d'une certaine façon. Et comment, justement, ils dialoguent, et comment la multiplicité, par exemple, au niveau local, a-t-elle quelque chose à voir avec le fait qu'on a priori les mêmes dieux, même s'ils ont des épithètes qui sont très différents selon les espaces géographiques. Et cela, ça n'est pas si simple que ça d'y travailler,
Vinciane Pirenne-Delforge. C'est sans doute un des grands défis de l'étude des polythéismes, et du polythéisme grec en particulier. C'est ce que j'appelle souvent la tension entre le général et le particulier, qui effectivement nous oblige à comprendre comment une divinité que l'on trouve dans l'épopée homérique, par exemple, mmh. était honorée au niveau local. Nous ne pouvons pas considérer que les Grecs étaient schizophrènes, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de dissociation complète entre le nom de Zeus tel qu'il était mis en scène par Homère.
Ou de Héra.
Ou de Héra, sur laquelle j'ai pas mal travaillé avec une collègue de l'école pratique des hautes études. Et donc, comment ces dieux qui peuvent nous apparaître totalement humanisés dans l'épopée, mm-hmm. Sont-ils aussi des personnes auxquelles on rend un culte et que l'on honore et dont on craint la colère, dont on recherche la bienveillance? Et donc, la solution facile, c'est de se dire, ah bien, d'un côté, on a de la littérature, l'imagination, et de l'autre, on a le sérieux de la religion en acte. Mais non, c'est là que nous nous trompons.
Faut reprendre les termes de bricolage de Michel de Certeau, là, en l'occurrence.
Voilà,
faut aller chercher
fait.
Du bricolage partout.
Bien sûr. Et plus que du bricolage, c'est vraiment, je pense, une intégration de ces différentes représentations, de ces niveaux de la représentation. Nous devons les intégrer. Nous devons les intégrer. Ce sont des langages différents qui parlent de la même chose.
C'est pour ça que vous allez donner deux jours de cours, le 1er et le 8 mars prochain, au Collège de France, s'intitulant « Dieu grec et Dieu des Grecs ».
Voilà, absolument. Évidemment, il faut toujours trouver des titres un petit peu évocateurs et accrocheurs, mais c'est cela qui se cache derrière cet énoncé, c'est il y a des dieux grecs, et puis c'est-à-dire le niveau général, pour reprendre ma dichotomie, et puis alors les dieux des Grecs, c'est-à-dire le niveau local, et donc c'est la coordination entre ces deux niveaux que je veux vraiment étudier de façon approfondie.
Alors vous avez quand même eu un peu de chance en arrivant au moment où vous êtes arrivé dans la recherche, puisque vous expliquez bien d'abord que ces tablettes n'étaient pas lues ou pas lisibles ou pas vues même d'une certaine façon auparavant, celles de Dodone, mais qu'on ne voyait pas plus la question de la découpe. De la viande ou la découpe des os qui étaient des découpes sacrificielles et qu'aujourd'hui, grâce à d'autres méthodes, des méthodes qui sont travaillées par les archéologues mais aussi par les archéozoologues par exemple, eh bien, vous avez des outils nouveaux pour lire un passé qui jusqu'à maintenant était un peu dans le brouillard, en l'occurrence Vinciennes Pirène Delforge.
En fait, l'acte rituel central des polythéismes de la Méditerranée antique, pas seulement des polythéismes d'ailleurs, puisque dans le judaïsme on retrouve cela aussi, c'est le sacrifice. Le sacrifice, donc la mise à mort d'un animal domestique en l'honneur d'un dieu. Ce qui pose le problème passionnant du rapport à la viande, d'ailleurs. Et donc le sacrifice, pendant très longtemps, a été étudié, là encore, sur la base des textes qui nous étaient parvenus par la tradition manuscrite. Grâce à l'épigraphie et grâce à l'archéologie, comme vous le dites, on a aujourd'hui la possibilité d'appréhender ces données de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus subtile. Et on voit notamment à quel point le partage de la viande dans le contexte sacrificiel est un marqueur de statut. Ce qui nous renvoie d'ailleurs à des problématiques très contemporaine hein, du rapport à la viande. Quand vous voyez toutes les discussions sur la viande halal, la viande cachère, en fait, il ne faut jamais oublier que de ce point de vue, le christianisme a introduit quelque chose de tout à fait inusité dans le traitement de la viande, c'est-à-dire que le christianisme l'a laïcisé.
Bien sûr.
C'est
le livre de récent, qui est d'ailleurs un excellent livre de Massimo Montanari, qui vient tout juste d'être traduit en français, qui s'appelle « La chair, C-H-E-R-E, et l'esprit », sur le régime alimentaire chrétien, expliquant que ce régime alimentaire s'était répandu facilement, parce qu'au bout du compte, il prenait des habitudes locales et qu'il les adaptait à sa propre religion, sans imposer véritablement de régime particulier.
Absolument.
Et surtout avec des discussions entre pères de l'Église, explique-t-il, effectivement, qui montrent qu'il y a une latitude. On peut faire comme ceci, on peut faire comme cela. Doit-on manger ou boire du sang d'animal? On peut ou on ne peut pas, ça dépend des endroits. Mais c'est possible à certains endroits.
Mais on voit bien que les premiers chrétiens, de ce point de vue, et les lettres de saint Paul sont extrêmement claires à cet égard, se sont véritablement posé la question de savoir s'ils pouvaient continuer à manger cette viande qui était le fruit d'un sacrifice pour des dieux qu'ils exécraient. Et donc, la manière dont ce christianisme naissant en est sorti par rapport à ce problème, c'était précisément de détacher la viande de son contexte religieux, sacrificiel, rituel. Et je disais souvent à mes étudiants à l'Université de Liège, nous sommes, de ce point de vue, l'exception plutôt que la règle. Parce que la plupart des cultures humaines ont eu un rapport sacralisé à la mise à mort des animaux et à la consommation de la viande. De ce point de vue-là, le christianisme a constitué véritablement une césure.
Alors, vous expliquez, et vous reprenez le beau mot de Paul Venn, qu'en histoire des religions, comme en amour, la plume glisse facilement.
Ah oui, j'adore cette expression. Ça, c'est du Paul Venn pur jus.
et donc, il faut, quand on travaille sur ces questions-là, avancer prudemment, éviter peut-être les grandes visions très globalisantes, justement, le travail de la recherche, c'est justement de ne pas vouloir faire des grandes explications holistiques, là où il faudrait justement montrer la variété, montrer la multiplicité, comme vous le faites, Vinciane Pirey-Delforge.
En fait, la tension entre le général et le particulier que je piste dans mes champs de recherche vaut aussi, c'est aussi une problématique de la recherche elle-même. Quand on travaille en histoire des religions, effectivement, la tentation, ce sont les grands systèmes explicatifs, et c'est d'ailleurs cela qui a informé toute l'histoire des religions.
Mircea Eliade, voilà. Et puis ensuite Georges Dumézil.
Oui, enfin Georges Dumézil était quand même moins englobant que... Je me reconnais davantage dans l'œuvre de Dumézil que dans celle d'Eliade, de ce point de vue. Mais c'est vrai que la tentation est très grande, et elle est d'autant plus problématique avec quelqu'un comme Eliade, qui avait d'éminentes qualités, hein, je les reconnais très volontiers, mais c'est que le nombre de livres qu'il a écrits satisfont auprès d'un grand public ce besoin d'explications globalisantes. Et donc, en tant qu'historien, on arrive en disant « Oui, mais attention, c'est pas tout à fait comme ça, il faut être plus prudent, il faut être plus précis. » C'est beaucoup moins attirant, c'est beaucoup moins attirant. Et donc, un des défis,
vous voulez dire que les livres de Vinciane Pirey-Delforge se vendent pas dans des traductions
voilà,
à 40 langues.
Se vendent
dans 40
beaucoup
langues.
Moins bien que ceux de Mircea Eliade, incontestablement, comme le dit une de mes amies, tu n'écris pas des livres de plage.
Il y a autre chose sur laquelle vous avez insisté, je voudrais peut-être conclure avec vous notre entretien donc d'aujourd'hui. Vinciane Pirey-Delforge, vous avez terminé votre leçon inaugurale, et c'est assez rare pour être signalé, en disant une très belle phrase: la recherche a besoin de calme, elle a besoin de temps, ainsi que de liberté et de confiance. Et vous rendiez hommage à cette très belle institution, effectivement assez rare, qui est l'institution du Collège de France dans laquelle vous venez de rentrer, qui vous donnera le temps, la liberté, la confiance et le calme, on peut l'espérer. Qu'est-ce qu'à dire ?
Ah mais écoutez, le problème c'est que j'ai énoncé cette considération par contraste. C'est-à-dire que de ce point de vue, le collège est un endroit extrêmement privilégié, et je suis effrayée de voir la manière dont l'université en Europe, hein, ce n'est pas une spécificité française ou belge, l'université en Europe est en train de se transformer en profondeur en ôtant à ces acteurs de première ligne le temps, le calme et la confiance. On est entré dans un processus où les enseignants-chercheurs sont saturés de cours, d'obligations, d'administration, de charges administratives, de commissions, d'évaluation. On n'en peut plus. Et je viens d'un système universitaire, donc j'en parle à l'aise, même si je pense que ce que je découvre en France est sans doute encore plus grave que ce que j'ai connu en Belgique.
Ce que vous appelez la conception entrepreneuriale.
Absolument,
de l'université.
Tout à fait. La conception, c'est-à-dire, et c'est un mouvement de fond qui m'inquiète beaucoup, et je pense que les collègues universitaires, on devrait tous se pencher sur ce problème et se solidariser pour résister, parce que c'est un problème de fond c'est un mouvement de fond qui est un mouvement de société, donc c'est d'autant plus difficile de le contrer de façon efficace. Mais nous sommes en train, je pense, de tuer la recherche.
Merci beaucoup d'être venu, Vinciane Pirey-Delforge, pour avec des mots très forts, en l'occurrence, vous y allez vraiment. Et Annette Becker, qui est à côté de vous, vous fait un signe d'approbation. En l'occurrence, vous y allez très fort. Et on a grand intérêt à aller regarder votre leçon inaugurale. Le premier cours qui est déjà en ligne, celui d'hier, n'y est pas encore. Mais il le sera très prochainement sur le site du Collège de France. À vous écouter sur France Culture, puisque toutes les nuits, nous diffusons des cours du Collège de France. Et les vôtres, ce sera pour bientôt, grâce à Meryl Moynaghetti. Et puis également, à venir vous voir directement au Collège de France pour les prochains cours qui durent jusqu'à la fin mars, c'est ça ?
Le 12 avril, exactement.
Voilà.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Et nous passons de la religion des Grecs à la Shoah et au génocide du XXe siècle. Avec vous, Annette Becker, bonjour.
Bonjour.
Alors, il y a là aussi un tout petit rapport, mais tout de même, qui peut nous rappeler ce que nous racontait à l'instant même Vinciane Pirey-Delforge. Enterrer des textes, C'est ce qu'a fait, par exemple, Emmanuel Ringelblum, dont vous parlez dans « Messager du désastre », dans le ghetto de Varsovie, pour pouvoir témoigner de ce qui se passait et de ce qui s'était passé dans ce ghetto, et pour que, plus tard, on puisse les déterrer et comprendre ce qui s'était passé véritablement pendant cette période de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, c'est tout à fait exact. J'y pensais très fort en écoutant Vinciane. La façon dont les acteurs, sur le terrain, immédiatement, ont compris qu'il se passait quelque chose de spécifique. Très tôt, dès 1940, dès 1941, et en 1942, il était sûr que l'extermination était totalement en marche. Et ce sont les acteurs eux-mêmes qui l'ont compris, et soit des juifs, comme Ringelblum. Et Ringelblum, qui était historien de profession, et ce n'est pas le hasard, a voulu absolument garder ce qu'il restait de cette culture, de cette civilisation qui était celle des Juifs de l'Est de l'Europe. Parce que l'histoire de la Shoah, pour bien la comprendre, je crois, il faut vraiment la recentrer sur l'Est de l'Europe. Mm-hmm. C'est là que l'essentiel des Juifs ont été exterminés, sans survivants. Et la seule survivance, eh bien, ce sont les textes, les objets, une véritable archéologie, et c'est en cela que nos recherches se ressemblent, et cette précision à la fois du local. Aucun shtetl n'a été exterminé de la même façon. Mmh. Aucun juif n'est mort de la même façon. Et en même temps, cet ensemble européen et mondial de l'extermination qui devient génocide, et dont le mot est inventé, en 1943 par Lemkin.
Alors justement, les deux personnages principaux de votre travail chez Fayard, Annette Becker, qui s'appelle l'Institut Messager du désastre, ce sont Raphaël Lemkin et Yann Garski. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces deux personnages sont un peu connus. Vous dites effectivement que Raphaël Lemkin ne l'est pas suffisamment, étant donné son parcours. Yann Garski l'est depuis quelque temps en France, en raison d'une polémique qui s'est développée, dont vous parlez dans votre livre, autour du livre de Yannick Enel, de son adaptation au théâtre et des discussions qu'il a pu y avoir avec des historiens de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on découvre tout un tas de personnages que je n'avais jamais entendu parler personnellement. Simon Doumnoff est connu dans certains milieux, mais je ne l'avais jamais lu. Il est auteur d'une histoire moderne du peuple juif en 1938. Il écrit « Nous assistons au début de l'anéantissement du judaïsme européen ». C'est en 1939. Vous parlez de Franz Werfel, qui est également dans ce livre. Évidemment, d'Emmanuel Ringelblum dans le ghetto de Varsovie. Et de bien d'autres que l'on voit dérouler sous votre plume. Schmel Ziegelblum, qui va se suicider avant la fin
de désespoir
parce qu'il n'a pas réussi, alors qu'il appartenait à ce gouvernement polonais en exil, à mobiliser suffisamment de forces pour pouvoir interrompre le processus en cours, etc., etc. Annette Becker.
Oui, ça explicite le titre du livre « Messager du désastre ». Des messagers, il y en a eu beaucoup, et il y en a eu très tôt.
Et il y a eu beaucoup de messages.
Il y a eu beaucoup de messages, et ces messages sont arrivés. Et c'est pour cela que j'ai pris part dans la polémique qui a opposé Yannick Enel à Claude Lanzmann et aussi à certains de mes collègues, du côté personnellement de Yannick Enel. Parce que ce qu'il rendait sous forme de parabole...
Oui, alors il faut expliquer que dans son texte, il inventait une scène qui n'était pas dans le témoignage de Yann Garski soi-même, quand Yann Garski se rend auprès de Roosevelt et de Morgenthau
en juin 1943. Très tard.
Se rend donc auprès de Roosevelt et qu'il discute de ce qu'il a vu, justement, de l'extermination des Juifs d'Europe et de Pologne. Et Yannick Enel a inventé une scène qui est une métaphore du désintérêt ou du côté un peu léger de Roosevelt face à ce qu'on lui annonçait d'une certaine façon.
Et ce que montrait Enel par sa littérature très, très moderne, bien sûr, d'aujourd'hui, c'était en effet la faille absolument incroyable entre les informations qu'avait eues Roosevelt depuis la fin 41, mais surtout depuis 42. Le printemps 42, tous les rapports, et ce n'est pas les rapports qui manquaient, de par le courage des courriers, bien sûr, qui venaient de Pologne, ou par toutes sortes d'informations qui transitaient par la Suisse, qui transitaient par le Vatican, qui transitaient par la Palestine mandataire. Tout ça était sur le bureau de Churchill et de Roosevelt en temps réel.
Oui, et en septembre 42, le Foreign Office écrit « Aucune action ne semble nécessaire ».
Exactement. Et ce qui m'a beaucoup frappée, parce que je viens de cette archéologie qui est aussi une archéologie de l'image, c'est que on voyait des photos dans les archives de Kew, les archives nationales britanniques, qui avaient été apportées par des courriers sous forme de microfilms, qui sont développées ces photos. Et qui sont dans les archives. Tout le Foreign Office et jusqu'à Churchill, tout le monde a vu ces photos épouvantables du ghetto de Varsovie. Mais dans la rue, en même temps, elles étaient publiées dans des petites brochures « Sauvez les Juifs européens ». Ces brochures, elles sont de 42. À ce moment-là, le camp de Birkenau vient à peine d'ouvrir. Mais déjà, on sait que le judaïsme polonais, que le judaïsme balte a disparu.
Oui, c'est d'ailleurs extrêmement intéressant parce que on a eu des discussions sans fin, pourrait-on dire, depuis une vingtaine d'années, disant mais on ne savait pas, on ne pouvait pas connaître, qui savait quoi, savait-on ce qui est en train de se passer en Pologne, etc. Et vous nous offrez dans votre livre, un court livre de 250 pages, vous nous offrez énormément d'exemples d'articles de presse dans le New York Times, d'articles de presse dans les journaux anglais, dans les brochures, vous le disiez, des Polonais en exil, etc., qui mettent en avant justement ce qui est en train de se faire. Et les mots ne sont pas encore ceux qu'on utilisera plus tard. On ne parle évidemment pas de Shoah, mais on ne parle pas non plus de
d'extermination.
Génocide. Mais on parle d'extermination ou de crime de masse.
Absolument. Et ça, c'est quelque chose, le mot extermination apparaît d'autant plus rapidement qu'on se rappelle de l'extermination des Arméniens pendant la Première Guerre mondiale.
Voilà, le Times en décembre 42, le Times de Londres, dit « La guerre des nazis contre les juifs, un plan délibéré d'extermination ».
D'extermination, mais bien sûr. Et ce qui est extrêmement frappant là-dedans, c'est que l'on sait, mais que savoir ne veut pas dire que l'on comprend dans un premier temps et ne peut pas montrer que l'on croit. Et je pense que Raymond Aron l'a dit de façon extraordinaire.
Ouais, vous le citez dès le début.
C'est là que j'ai été passionnée par ce qui s'est dit dans la première partie, parce que qu'est-ce que l'on croit par rapport à l'information ? Alors, on avait une information religieuse, là on a une information, je dirais, humaine, éthique, puisqu'on est en train d'assassiner un peuple, mais on se place dans une période où tout le monde est en guerre, où tout le monde souffre. Alors comment comprendre que là, il se passe quelque chose de particulier. Et c'est là que les messagers apportent cette possibilité
mais qu'ils ne sont pas entendus.
Parce que quand ils voient une photographie d'une masse de morts jetée dans une fosse commune, ils comprennent que ça veut dire que tous ces gens-là, il y a des enfants, il y a des femmes, ce ne sont pas des déportés politiques, ce ne sont pas des opposants. Et les autres ne peuvent pas le comprendre, ils sont dans une guerre normale. Mmh. On va faire la guerre, dit Roosevelt, et on les punira. Mais ça sera trop tard. C'est ça leur désespoir.
Ce que vous expliquez également très bien, c'est que, et vous êtes aussi historienne de la Première Guerre mondiale, Annette Becker, c'est qu'il faut faire le lien entre cette Première Guerre mondiale, qui est si proche pour tous ceux qui vivent la Seconde, et la Seconde Guerre mondiale. Et que si on n'a pas en tête la façon dont on a expliqué, et c'est Marc Bloch qui nous sert de référent constant avec ses réflexions sur les fausses nouvelles de la guerre pendant la Première Guerre mondiale, si on n'a pas compris combien la fausse nouvelle, combien la rumeur s'était propagée pendant toute la Première Guerre mondiale, et combien après la Première Guerre mondiale on fera un procès à tous ceux qui ont témoigné en disant « Attention, le témoignage, il faut s'en méfier. » Il y aura évidemment le travail de Norton Crue et de bien d'autres après la Seconde Guerre mondiale. Si on n'a pas compris que ça, c'est un horizon très récent, c'est un passé très récent, on ne comprend pas pourquoi certains ne veulent pas croire justement ce que l'on annonce.
Ça, c'est un point extrêmement important pour moi. C'est-à-dire que tous les êtres humains qui rentrent dans la Deuxième Guerre mondiale, quelle que soit la façon dont ils y rentrent, soit ont connu la Première Guerre mondiale, s'ils ont plus de 20 ans, soit en ont entendu parler énormément, évidemment, par leurs parents. Ils ont été éduqués dans le souvenir de la Première Guerre mondiale.
Raoul Girardet, je suis un enfant d'un monde dans lequel les monuments aux morts étaient blancs, écrit-il dans son essai de
Évidemment, mais bien sûr, Chaunu dit la même chose.
Le fils de la morte.
Je suis le fils de la morte. C'est vraiment quelque chose d'absolument central. Mais dans les années 20, comme vous venez de le dire, on a, si je peux le dire ainsi, jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'on a pensé qu'une partie des atrocités étaient des mythes. Bien sûr, les enfants coupés, les mains coupées des enfants belges, ça n'est jamais arrivé. Mais du coup, on a jeté les atrocités. On a jeté les viols, on a jeté les boucliers humains, on a jeté les destructions diverses des atrocités en Belgique, dans le nord de la France, mais aussi, bien sûr, surtout les autres fronts. Et on a mis à l'arrière-plan complètement l'atrocité maximum de la Première Guerre, qui avait été l'extermination programmée et extrêmement réussie du peuple arménien, par les Turcs.
Oui, et d'ailleurs, celui qui est au cœur de votre livre avec Yann Karski, dont on a déjà parlé avec vous, Annette Becker, c'est Raphaël Lemkin. C'est celui qui inventera et imposera le terme de génocide à partir de 1948 pour qualifier ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a déjà pensé, expliquez-vous très bien, et c'est très intéressant, effectivement, ce travail sur Lemkin. Il y a déjà pensé en tant que juriste, polonais, juif, il y a déjà pensé pendant l'entre-deux-guerres pour la SDN, pour qu'il travaille. Et il n'a pas encore trouvé le terme qui va se résumer sous ce terme de génocide, mais il réfléchit à partir de l'exemple arménien.
Il réfléchit à partir de deux exemples. Les pogroms contre les juifs pendant la Première Guerre mondiale en Russie et surtout pendant la guerre civile russe et dans les suites, dans la guerre russo-polonaise.
Dans les années 1920 en particulier.
Où les pogroms ont été d'une atrocité absolument incroyable et très inconnue aujourd'hui. Ça, c'est un de ces terrains de réflexion. Et le deuxième, c'est les Arméniens. Mais il le fait en juriste et il a l'occasion dans deux procès. Il y a le premier procès, c'est celui de Telerian, qui est un jeune Arménien qui vient à Berlin assassiner un des responsables du génocide des Arméniens, Talat Pacha. Et on sait aujourd'hui, les travaux de mon collègue suisse Lucker montrent extrêmement bien que c'était lui le cerveau du génocide. Donc il avait assassiné la bonne personne. Et à ce moment-là, on lui fait un procès. Et Lemkin, alors c'est un peu apocryphe parce que j'ai jamais réussi à le trouver dans les archives, nulle part. Mais enfin, il s'est quand même posé une question, même s'il ne l'a pas dite comme ça. Pourquoi est-ce qu'on fait un procès à quelqu'un qui a assassiné un homme et qu'on ne fait pas de procès à sa victime qui, lui, a assassiné plus d'un million d'hommes.
La souveraineté des États ne peut pas être conçue comme le droit de tuer des millions d'innocents, écrit-il à ce moment-là.
Exactement. Voilà. Et donc, à partir de là, il va réfléchir très tôt. Il est très jeune, hein. Il est né en 1900. Donc, il pose la question. Il a 21 ans. Et depuis ses 21 ans, jusqu'à sa mort en 1959, il meurt très jeune d'une crise cardiaque, eh bien, il ne va s'intéresser qu'à cela. Et le point tournant, c'est 1933, donc c'est bien avant la Deuxième Guerre mondiale, et ça c'est très important, où il invente pour la SDN deux termes, le terme de crime de barbarie et de crime de vandalisme. C'est-à-dire qu'il a déjà l'idée que ce qu'il appellera génocide 10 ans plus tard, c'est à la fois s'attaquer à un peuple en tant biologiquement et physiquement.
Mais aussi à sa mémoire.
Mais aussi à sa mémoire et à sa culture et à son histoire. Et c'est là qu'il rejoint Dubnov dont vous parliez tout à l'heure. Dubnov qui, lui, va être assassiné dans les premiers à Riga en 1941. Et Dubnov disait c'est la culture juive qui va disparaître. Et il avait raison.
Ce qui est très intéressant et absolument passionnant quand on vous lit, Annette Becker, dans ses Messagers du désastre, c'est que vous prenez certes au sérieux ce qu'ont raconté et Karski et Lemkin, mais qu'en tant qu'historienne, vous y regardez de plus près. Vous expliquez bien, effectivement, qu'il y a eu, non pas différentes versions de leur histoire, mais qu'au fur et à mesure où on a, par exemple, fini par accepter le terme de génocide, Lemkin a peut-être réécrit en partie ses souvenirs, ou s'est souvenu autrement de ce qu'il avait vécu. Il a donné une origine qui était peut-être différente de la véritable origine de cette naissance de terme de génocide, et que de l'autre côté, Karski a changé plusieurs fois de peau, pourrait-on dire, entre le patriote polonais antisémite, comme beaucoup
De façon subliminale,
voilà,
mais oui,
voilà,
pour un Polonais catholique en 1939, les Juifs, c'est rien.
Voilà. Donc,
qui
ne connaît pas cette culture, qui ne connaît pas ceux auprès desquels il vit tous les jours, qui va les découvrir, qui va se découvrir d'une certaine façon plus juif que juif, ou à un moment donné, à la fin de sa vie, dire je suis juif.
C'est extrêmement émouvant.
Alors qu'il est encore catholique,
bien sûr.
Il n'a pas abandonné sa religion d'origine. Vous montrez bien aussi les variations, pourrait-on dire, du regard d'un homme sur lui-même et sur son parcours, Annette Becker.
Oui, tout à fait. Il arrive sur la scène historique comme résistant polonais, extrêmement patriote. Et s'il est envoyé comme courrier à Londres, puis aux États-Unis, c'est pour parler des Polonais. Et d'une certaine façon, quand Roosevelt ne veut pas lui parler des Juifs, Roosevelt est logique. Il est là pour parler de la Pologne. Ce que montre d'ailleurs très bien Haenel dans son roman, preuve qu'il a fait des recherches vraiment très, très approfondies. Mais en revanche, au moment de quitter la Pologne, on lui demande de se camoufler. Et il se camoufle deux fois. Une fois en Juif, pour pouvoir passer par les tunnels et voir le ghetto de Varsovie. Et là, il porte l'étoile jaune et il est pour quelques heures juif. Et il voit d'ailleurs des scènes terribles dans le ghetto. Et une deuxième fois, et je pense que ça, c'est le déclic, qui sera le déclic de toute sa vie. Il est emmené par la résistance, qui paye d'ailleurs des fortunes, ce qui montre aussi le problème de la corruption dans tout ce système qui est absolument incroyable. Il est emmené sur la route de Belzec et en fait il ne va pas à Belzec.
Il
croit qu'il y va dans un premier temps. Après il comprend qu'il n'était pas à Belzec. Il est dans un camp de
comment dire de
regroupement qui s'appelle Izbica. Mais ce camp de regroupement est sur la route de Belzec. Et il y a des encombrements. Ils ont trop de juifs. Belzec ne peut pas les tuer assez vite. Et donc, qu'est-ce qu'ils décident ? Ils enferment des juifs dans des wagons dans lesquels ils ont mis de la chaux vive. Et c'est d'ailleurs une étude très intéressante que j'ai essayé de mener autant que j'ai pu à la date d'aujourd'hui. Mais c'est une chose sur laquelle on n'a pas assez de détails. On ne sait pas combien d'êtres humains ont été assassinés comme ça à la chaux vive. On imagine les douleurs atroces, c'est pas rapide. Hein. Et donc il a vu ça. Il a vu ça et ça l'a hanté toute sa vie. Et c'est là, quelque part, alors qu'il porte un autre camouflage, celui d'un supplétif ukrainien des nazis, c'est là qu'il a vu la mort du peuple, qu'il l'a vraiment comprise. Et sa vie en a été totalement transformée. Mais il continue d'être le patriote polonais.
Oui, parce que si, par hasard, les communistes n'avaient pas pris le pouvoir à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Pologne, il y serait retourné. Il aurait peut-être eu un rôle politique.
Il aurait pu devenir ministre,
etc.
Bien sûr.
Et donc, le Karski filmé par Claude Lanzmann en 1978 à New York, après tout le passage qu'il a fait à l'université, et puis ensuite retémoignant en 1981 jusqu'à la fin de sa vie.
De
ce qu'il avait vécu ne serait pas ce qu'on connaît aujourd'hui d'une certaine façon, Annette Becker.
Bien sûr, absolument pas. Puisque lui, sa vie, c'était la Pologne et qu'il est devenu un réfugié. Il est devenu un Américain. Il a pu faire une carrière de professeur, mais il a dû mettre de côté toute sa guerre. Mais c'est maintenant, aujourd'hui, dans la Pologne d'aujourd'hui, qu'il est instrumentalisé de façon absolument incroyable. On connaît les problèmes de la Pologne d'aujourd'hui. Il faudrait y revenir, mais Karski est très intéressant. Parce que Karski est en sculpture partout dans la Pologne et il l'est comme uniquement patriote polonais. Et il n'apparaît au service des Juifs que de façon extrêmement marginale. Ce qui les intéresse, c'est le patriote polonais.
On peut terminer aussi sur ce formidable Arthur Koestler, dont on parle trop peu aujourd'hui, que vous mettez aussi en avant parmi les personnages
plus secondaires. Il fait partie de ceux qui ont vu. Il a rencontré Karski, c'est en cela qu'il est très intéressant.
Voilà, et il dit « savoir, ne pas savoir, croire, ne pas croire n'est pas binaire, mais présente des différences d'intensité, dit-il. Et là, je vois Vinciane Pirenne-Delforge qui salue ce type de phrase. Et face à l'absolu des crimes nazis, il dit « Un chien écrasé nous bouleverse. Un million de juifs tués en Pologne ne nous cause qu'un petit malaise. Les statistiques ne saignent pas, c'est le détail qui compte. Nous sommes incapables d'embrasser la totalité du processus. Nous ne pouvons nous arrêter qu'à des petites poches de réalité. Face à l'absolu, on ne comprend plus rien. »
C'est une phrase qui m'a beaucoup frappée. Et depuis que je la connais, depuis une dizaine d'années, elle est sans arrêt dans mon esprit.
C'est pour ça d'ailleurs que vous concluez sur d'autres crimes, et en particulier sur le Rwanda, en l'occurrence, Annette Becker, où nous nous sommes rendus ensemble il y a quelques temps, mais vous évoquez les Arméniens, les Juifs, les Tutsis du Rwanda, pour pouvoir dire effectivement que face à l'absolu, il peut se passer des choses dans notre monde et on peut se retrouver, comme Roosevelt ou comme Morgenthau, à regarder cela à distance sans vouloir véritablement le voir, Annette Becker.
Oui, je crois que pour moi, c'est très important. Je suis là comme historienne, mais je suis là aussi comme citoyenne. Et quand Lemkin dit « on ne sort jamais d'un génocide, on a toujours la cicatrice en soi », je crois qu'il a tout à fait raison. Et nous avons vu ensemble des Tutsis qui portaient cette cicatrice. Et nous avons la chance d'être témoins de loin. Mais je crois que c'est notre devoir, au moins intellectuel, de le dire et de le redire.
Merci Annette Becker. Je rappelle que votre livre s'appelle « Le messager du désastre », Raphaël Lemkin, Yann Karski et les génocides. Il vient d'être publié chez Fayard. Et nous terminons notre émission sur un tout autre sujet. Nous évoquons la colonisation. Vous savez que nous avons, en fin d'émission, le vendredi, une rubrique qui s'appelle « C'était à la une », où nous demandons à un comédien ou une comédienne de lire un grand texte de presse des deux derniers siècles. Il s'agit d'un texte de l'humanité à l'ouverture de l'exposition coloniale de 1931, lu par Daniel Königsberg.
J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable.
Le 26 avril prochain,
en portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
C'était à la une.
L'humanité, 6 avril 1931. Une exposition anti-impérialiste se prépare. On espère bien, avec l'exposition, drainer à Paris tout ce que les autres continents enverront cet été de touristes et de riches promeneurs. Exposition coloniale ? Exposition colonialiste, plutôt. Il s'agit de démontrer la générosité des grandes puissances et le résultat étonnant dû aux méthodes civilisatrices que l'on applique sur 2/3 du globe. France, Hollande, Belgique, Angleterre établiront à Vincennes le bilan de leur réalisation. Mais les palais de plâtre du bois de Vincennes, les fêtes et la musique suffiront-ils à faire oublier les massacres effroyables qui ont ensanglanté toutes les colonies au cours de ces dernières années? Comment oublier, devant les pavillons de la Hollande, la sanglante répression qui écrasa la révolte des Indes néerlandaises? Comment oublier les massacres aux Indes et la plus habile propagande autour des chefs de la civilisation française fera-t-elle oublier le dépeuplement des pays noirs, le travail forcé et la destruction de 300 villages du Nord Annam et du Tonkin par les colonnes de répression et par l'aviation? On aura beau faire beaucoup de bruit, on n'empêchera pas que se fasse entendre à Vincennes même la voix des opprimés qui n'abdiquent pas et qui veulent plus que jamais la libération et l'indépendance. Des lettres nous arrivent de tous côtés, des coloniaux, des travailleurs, des hommes de toute race nous demandent si la parade colonialiste de Vincennes restera sans réponse. Qu'ils soient assurés que la réplique sera vigoureuse. Cette réplique, c'est le prolétariat révolutionnaire qui doit la donner. Le prolétariat français en premier lieu, puisqu'il est le plus directement touché devant l'exposition. Le prolétariat de tous les pays aussi. La publicité et la propagande colonialiste se sont largement développées à l'échelle internationale. C'est aussi sur le plan international que s'élèvera la protestation prolétarienne. Une initiative très intéressante sur ce terrain vient de se faire jour. C'est l'idée exprimée par la Ligue anti-impérialiste d'organiser à Paris, pendant l'exposition de Vincennes, une exposition anti-impérialiste. Certes, le dessin est hardi et sa réalisation peu commode, surtout en raison des moyens financiers qui sont très limités. Mais l'idée même de cette contre-exposition est d'une grande importance. Et nous ne saurions trop insister pour que toutes les femmes, que tous les hommes de bonne volonté, que toutes celles et que tous ceux qui sont résolument anti-impérialistes accordent une aide pratique et se dépensent pour la réalisation de ce projet. Ce sera une protestation vivante et démonstrative contre les mensonges colonialistes. Elle lèvera, face aux drapeaux impériaux, le drapeau de l'indépendance et de la liberté. Pour les peuples opprimés, elle signifiera que le peuple travailleur de France refuse de s'associer aux exploiteurs des colonies, qu'il rejette toute idée de solidarité avec les bourreaux des colonies, qui sont ses propres bourreaux et qu'il entend s'allier avec le prolétariat des colonies pour la libération de tous les exploités du monde. Au travail, donc, pour aider à la réalisation de l'exposition anti-impérialiste, que partout les bonnes volontés et les initiatives se manifestent, partout où cela est possible, que l'on recueille l'obol des travailleurs. Roger Gaillard.
C'était à la une avec le site Retro News de la Bibliothèque nationale de France. Si vous voulez lire l'intégralité de cet article et de tous les autres dont nous avons parlé depuis la rentrée de septembre, n'hésitez pas à aller sur Retro News pendant le week-end tranquillement. Vous pourrez ainsi lire de grands articles de presse. La semaine prochaine, nous vous parlerons de Lyon, la bonne ville de Lyon. Nous vous expliquerons combien elle a pu être à un moment donné, alors qu'elle était capitale des Gaules en termes de religion catholique, une ville protestante, mais également une autre de nos émissions sera consacrée entre autres à la question de Lyon, la révolutionnaire, ou plutôt la contre-révolutionnaire. Et puis, comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Dofar Guérin nous a accompagnés à la technique aujourd'hui et Renaud Dalmar était à la réalisation. Nous vous donnons rendez-vous, bien entendu, demain à la Sorbonne pour la journée donc sexe et pouvoir à la Sorbonne, le Forum France Culture où nous parlerons de notre côté de la question des révolutions sexuelles dans l'histoire avec entre autres Michel Perrault, Clyde Plumosil et d'autres historiens et historiennes. C'est à 10h demain matin.